Juste, bonjour. Avoir l'âge moyen des parents que vous avez interrogé, est-ce que ce sont des gens de plus de 40 ans ?
Je ne connais pas l'âge moyen. Oui, alors certains sont plus âgés, d'autres sont plus jeunes, mais ont été scolarisés au sein de pays. Donc je l'ai dit, beaucoup sont issus de l'immigration au sein de pays où prévalent très largement encore ces pédagogies. Hein. Donc pour expliquer ce léger décalage chronologique.
La question que j'aurais, c'est qu'est-ce que vous préconisez à partir de là ? En retour, je fais exprès un retour de l'école vers des valeurs plus traditionnelles pour leur permettre de réussir, ou bien un travail de collaboration plus explicité avec les familles pour que les choses soient mieux comprises.
C'est difficile de s'inscrire dans une logique de prescription. En tout cas, il me semble que pour répondre à votre question, le retour aux pédagogies traditionnelles me semble une perspective à écarter absolument, parce que il y a là quelque chose de dangereux à vouloir réserver une certaine pédagogie pour un certain type d'élèves. On pourrait former effectivement des élèves qui savent très très bien écrire l'orthographe, qui connaissent par cœur les listes des sous-préfectures et les numéros de département. Il n'est pas certain que cela leur donne les moyens voilà, aujourd'hui la société, même le monde du travail exige des individus de plus en plus qualifiés, des individus de plus en plus réflexifs. Ce serait une erreur fondamentale à mon avis que de réserver des pédagogies relativement restrictives à ses élèves, bien évidemment, et puis les autres pédagogies pour les autres. Voilà. Moi, je pense que ce travail sur les familles, en fait, il interroge en creux, en fait, le rôle de l'école. Cette inquiétude des familles face aux difficultés que rencontrent leurs enfants, tout ça renvoie au rôle de l'école, questionne indirectement les pratiques pédagogiques qui sont mises en œuvre au sein des classes. Hein, c'est pour ça que j'essayais de terminer, je ne sais pas si j'étais très claire, mais mon propos sur l'idée qu'il faut renouer avec des pratiques pédagogiques démocratisantes au sein des classes. Pour peut-être permettre à ces familles de desserrer un peu l'étau qu'elles sont en train de mettre en œuvre auprès de leurs enfants. Alors, sur la question des devoirs, moi, je suis relativement favorable au fait, par exemple, que le temps de travail personnel des élèves soit pris en charge par l'école, par l'institution. Voilà une piste qui me semble importante, mais peut-être pas au sein de ces, enfin, qu'il soit vraiment réinternalisé, vraiment pris en charge, hein, parce que ce n'est pas nécessairement parce qu'on met en place des dispositifs d'études, ces dispositifs, certes, bon, ils se proposent de compenser une aide parentale, voilà, mais il n'est pas certain qu'ils soient complètement efficaces ou qu'ils puissent être aussi efficaces qu'ils se proposent d'être.
Je trouve que votre analyse est tout à fait pertinente et qu'elle interroge. Et justement, moi, je suis enseignant de mathématiques et je me dis que si les apprentissages classiques par cœur, par exemple, ne posent pas problème aux familles, comment vous expliquez que j'ai la moitié au moins de mes élèves de 3e qui sont incapables de connaître leur table de multiplication, qui est un apprentissage basique? Et comment vous expliquez que dans des petites classes, des enfants à qui on donne un poème à apprendre à la maison, apprentissage on ne peut plus classique, viennent en classe et ne connaissent pas ce poème?
Je ne sais pas, parce que ça renvoie à... Je ne sais pas comment vous répondre, parce que c'est... Enfin, c'est une sorte de généralisation qui renvoie certainement, je sais pas, au fait que les élèves travailleraient pas ou qu'ils ne développeraient pas les efforts nécessaires à la maison pour apprendre, etc. Moi, c'est pas ce que j'ai vu dans l'enquête. Alors après, sur les troisièmes, ce sont des plus grands, ce sont des adolescents. On sait que l'encadrement familial n'est pas le même, mais sur les petits. Moi, j'ai vu des familles très attachées, au contraire, à l'apprentissage, enfin, à encadrer ces travaux d'apprentissage. Donc, il faudrait voir à quoi vous vous référez quand vous dites ils viennent et ils n'apprennent pas. Je sais pas. Pour rebondir juste sur la question d'étapes de multiplication, on peut aussi s'interroger sur le fait qu'aujourd'hui, ce soit quelque chose qui soit beaucoup à apprendre à la maison. Ça relève peut-être pas nécessairement de l'évidence. Enfin, je crois qu'il y a les travaux d'une didacticienne des mathématiques qui ont porté là-dessus, sur les, notamment l'apprentissage des tables. Hein, et c'est un phénomène relativement récent que les tables soient exclusivement, enfin que ce type d'apprentissage soit exclusivement réservé aux familles, hein, alors qu'ils sont pourtant fondamentaux. Donc voilà, je vous donnerai, j'ai pas la référence en tête de cette didacticienne, mais ça me paraît être intéressant pour un enseignant de mathématiques. Mais je sais pas quoi, qu'est-ce que je peux répondre de plus à votre intervention.
Je vais répondre.
Je
suis intervenu hier là-dessus, puisque je suis aussi professeur de mathématiques, professeur d'appui, et que je suis exactement sur, comme j'en parlais hier, sur cette problématique là des tables de multiplication. À l'école élémentaire, c'est pas la moitié, c'est beaucoup moins. C'est-à-dire que les élèves, en fait, qui au niveau CM1, et puis de toute façon, c'est un objectif de fin de cycle, hein, qui ne connaissent pas leur table de multiplication, ça reste une minorité. C'est-à-dire que là, pour l'instant, sur l'évaluation que j'ai pu faire, dans un contexte prioritaire assez quand même précaire, c'est 5 élèves à peu près sur 25. Donc c'est une proportion qui est loin de la moitié. En troisième, c'est beaucoup plus important. Pourquoi c'est beaucoup plus important? Parce que ça n'a pas été mobilisé, tout simplement. C'est un problème de mobilisation des tables, à la fois, je veux dire, dû à l'enseignement qu'on a, c'est-à-dire la régression du calcul mental au collège, et à la fois dû à l'activité des élèves. Voilà. Ça, c'est la petite réponse qu'on peut donner.
Ouais, je m'excuse, juste sur les mathématiques, moi je vais compléter un petit peu aussi, donner d'autres éléments de réponse. Hein, c'est par rapport aux tables, je crois qu'il faut aussi voir ce que l'institution entend par connaître ses tables et ce que l'élève entend par connaître ses tables. Parce que la plupart des élèves connaissent leur table, c'est-à-dire la table de 2, 1 fois 2, 2, 2 fois 2, 4, etc. Ils la connaissent. Après, par contre, quand on travaille les tables en classe, alors d'abord on travaille le serpent, on travaille Lucky Luke, on travaille un certain nombre de choses, c'est-à-dire par exemple, hein, deux élèves sont face à face, ils ont les mains dans le dos, chacun dégaine des doigts et c'est le premier qui donne la bonne réponse. Je veux dire, quand on est là, on est déjà dans comment est-ce que les tables sont opératoires et comment est-ce qu'on travaille avec. Et c'est à ce niveau-là qu'effectivement des enseignants font le constat que ben non, les élèves ne connaissent pas leur table. Et moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Enfin, il me semble que la plupart des élèves connaissent leur table quand ils les récitent de façon linéaire. Après, qu'elle soit opératoire, c'est complètement différent. On est vraiment sur autre chose.
Oui, moi, je voudrais dire un mot sur l'aide aux devoirs et aux leçons en collège. Hein. J'ai assisté à beaucoup de séquences d'accompagnement éducatif, hein, en éducation prioritaire comme ailleurs. Travaux, vous avez évoqué d'ailleurs, hein, un petit groupe d'élèves menés soit par des enseignants de collège, soit par des professeurs des écoles, soit par des assistants d'éducation. Mais ce que j'ai vu et ce qui m'a été confirmé, hein, par les principaux de collège, c'est quasi exclusivement, effectivement, de l'aide méthodologique, de l'aide à la compréhension des consignes. Mais c'est en aucun cas du soutien scolaire et de la remédiation. Hein, il faut être vraiment clair. Hein, je veux dire,
vous parlez de directives institutionnelles ou de
non, dans la pratique réelle. La pratique réelle. On ne réexplique pas ce qui n'a pas été compris dans la classe. C'est pas l'objet, effectivement, de l'accompagnement éducatif, et c'est pas ce qui se passe très massivement.
Alors, quelques éléments de réponse. Moi, j'ai observé durant un an un dispositif d'aide aux devoirs. Les enseignants que j'ai observés, donc qui encadrent le travail de leurs collègues, souhaiteraient que ce soit tel que vous. Que ce soit un accompagnement tel que vous le décrivez. Une petite aide méthodologique, un déblocage très ponctuel, et puis voilà, on peut prolonger, on peut s'assurer que tout est bien solide. Mais la réalité que j'ai observée, enfin que je dis nous parce qu'on a été une équipe, elle est très différente. Hein. on a des enfants qui sont en demande de réexplication. Alors, qui sont en demande de compréhension, des enseignants qui sont appelés à faire, à se réinscrire dans des logiques d'enseignement qui sont propres à la classe. Mais à ces difficultés de compréhension qui sont fondamentales, se cumulent des difficultés autour de la lecture des consignes, autour du décryptage des supports particulièrement opaques, se cumulent des difficultés liées à l'éclatement de la boucle matérielle des devoirs. Les élèves doivent jongler avec un nombre impressionnant de cahiers en primaire. Et ces difficultés se cumulent aussi avec une boucle des devoirs qui est souvent mal régulée, avec des prescriptions parfois très importantes. Il n'est pas rare que les enfants de primaire, on a pris un petit échantillon de cahier de texte de CE1, bon, il n'est pas représentatif nécessairement, mais ça donne une idée des pratiques qui sont à l'œuvre. Il n'est pas rare que les élèves ont trois tâches et plus à effectuer le soir pour le lendemain. On a pu voir ces prescriptions monter jusqu'à parfois 8 tâches. Certains enseignants m'expliquent qu'ils vont voir leurs collègues avant l'étude pour leur demander « Alors ce soir, qu'est-ce que tu veux qu'on traite prioritairement ?» hein, parce qu'ils sont habitués à cette enseignante qui est une forte prescriptrice. Donc ce qu'on observe, nous, c'est vraiment cette transformation de l'étude en une annexe de la classe, mais une annexe impossible de la classe. Donc, c'est pas étonnant quand on sait les difficultés qui pèsent sur les enseignants, le temps qui leur est imparti, les programmes de plus en plus lourds, la confrontation avec les élèves tels qu'ils sont. Il n'est pas étonnant de voir que l'étude fonctionne, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, comme une caisse de résonance de ces difficultés non résolues dans la classe. Donc là, je ne sais pas ce qui peut expliquer une telle différence, puisque vous avez observé des dispositifs d'aide aux devoirs. Là-dessus, mes travaux s'inscrivent vraiment dans la continuité de ceux qui ont été conduits par Patrick Rayou au sein d'établissements de collège, Ambition Réussite, etc. Et les constats sont relativement les mêmes. Donc il me semble qu'il y a ce que devrait être, mais c'est ce que sont réellement ces études.
Une des raisons, à mon avis, qui explique que ça fonctionne plutôt comme je le dis, mais pour une observation de terrain beaucoup plus variée que ce que vous avez pu voir, c'est que ce ne sont pas les élèves les plus en difficulté en collège qui participent à l'accompagnement éducatif. Ce sont plutôt des élèves moyens, effectivement, qui ne sont pas aidés chez eux, qui pour différentes raisons, et donc on n'a pas les difficultés profondes que vous avez évoquées dans d'autres contextes.
On va pas clore le débat, mais...
Oui, mais je crois quand même que là aussi, il y a de la... Peut-être si j'ai un manque de pédagogie sur la diffusion des résultats de la recherche, mais moi, je trouve qu'il y a une forme de résistance dans ce que vous exprimez à ce qu'on présente, et je trouve que... Enfin, ça m'interpelle parce que je pense qu'il est temps d'interroger le fonctionnement du système et de se confronter avec son fonctionnement réel. Alors, sur la question des élèves en difficulté, peut-être qu'il peut y avoir des nuances, parce que c'est vrai qu'en primaire, nous, ce qu'on a observé, c'est des élèves présents et des élèves en grande difficulté qui sont inscrits d'office, avec leur accord bien sûr, mais tous les soirs à l'étude. Alors, parce qu'au contraire, on leur dit que puisqu'ils sont en difficulté, il faut qu'ils viennent à l'étude. Alors, ce phénomène peut s'estomper peut-être en fin de collège et faire peut-être que c'est là que quelques différences peuvent se justifier. Mais je pense que ce que vous décrivez, une boucle qui fonctionne bien, des notions qui ont été parfaitement comprises et acquises au sein de la classe, c'est relativement en décalage avec ce qui se passe sur le terrain. Ce n'est pas qu'un problème d'articulation. J'ai vu des enseignants encadrer leur propre travail, encadrer leur propre leçon, et découvrir au sein de l'étude qu'aucun des élèves de la classe n'était parvenu à s'approprier. On voit ces enseignants déstabilisés. Voilà. On voit les enseignants être pas toujours forcément satisfaits de l'activité qu'ils développent à l'étude. Dans le rapport qu'on a rédigé, on parle de pratiques quasiment de survie mises en œuvre par les enseignants. Je vous donne un exemple de ces pratiques de survie. Alors le terme est un peu fort, mais on a remarqué que souvent les enseignants mettent en place pour faire réciter les leçons un système à double détente. C'est-à-dire, je suis à mon bureau, Et les élèves qui ont à apprendre leurs leçons viennent au bureau, ils vont réciter par cœur. Et c'est seulement une fois qu'ils auront récité par cœur la leçon qu'ils auront accès aux questions de compréhension. Et c'est un système qui n'est certainement pas satisfaisant, parce que quand les enseignants viennent à l'étude, ils rappellent aux élèves qu'une leçon ne peut être qu'apprise que si elle est comprise, etc. Donc on voit bien que ce ne sont pas nécessairement des choix pédagogiques qui amènent à mettre en œuvre ce système à double détente, mais qu'on a là un système qui permet de réguler les besoins de remédiation qui s'expriment à l'étude, parce que les enseignants ne sont pas toujours capables, à la fin d'une journée qui a été plus ou moins chargée, qui s'est plus ou moins bien passée, et sur un temps où ils sont quand même volontaires, hein, ils ne sont pas toujours capables, ils n'ont pas toujours peut-être... Enfin, c'est extrêmement coûteux, ces logiques de remédiation, refaire de l'enseignement, réexpliquer, etc. On a pu décrire dans le rapport ces pratiques, en fait, qui ne sont pas très favorables aux apprentissages, mais qui permettent quand même à l'étude de tourner, hein, qui rentrent bien dans le moule de l'étude.
Oui, moi je voulais revenir sur l'internalisation de l'étude, des devoirs à l'école, avec laquelle je suis tout à fait d'accord. Cependant, je pense que ça va déclencher d'autant plus des stratégies compensatoires, parce que les parents vont vouloir avoir une forme de pouvoir sur le travail scolaire des élèves, ou une forme de regard. Et mon questionnement, c'est comment on va prendre en compte la préoccupation des parents par rapport au fait qu'ils n'auront, entre guillemets, même plus les devoirs pour faire une forme de lien qui peut être discuté, hein, mais entre l'école et le travail à la maison. Je crois que ça, ça interroge aussi tout le dialogue qui doit s'établir avec les parents. Et puis, d'autant plus d'autres écarts qui vont se créer en fonction des parents qui peuvent aider, ceux qui aident moins, etc.
Oui, il est sûr que la réinternalisation du travail personnel des élèves ne va certainement pas faire disparaître la préoccupation des parents. Et il est certain que dans l'inquiétude qui s'exprime du côté des parents, il y a aussi une inquiétude de perdre ce moyen d'action. Et puis il faut dire que cette inquiétude, elle est peut-être légitime en partie quand les parents entendent qu'on va réintégrer, qu'on va complètement arrêter les devoirs à la maison et qu'on va les réintégrer sous la forme d'une demi-heure d'aide aux devoirs quatre fois par semaine. Ce qui est bien en deçà en fait du temps que les parents consacrent aux devoirs à la maison. Peut-être que s'exprime aussi une inquiétude légitime sur un projet qui peut-être ne convainc pas quant à la capacité de l'école à se réapproprier ce temps de travail personnel des élèves. Donc il y a cette inquiétude. Du côté des enseignants, on entend souvent, Patrick Rayou l'a montré, il y a cette inquiétude aussi quant à la suppression des devoirs, la perte de ce lien qui conduira à permettre aux familles de s'impliquer, et notamment quand on pense aux catégories populaires, elles sont particulièrement visées parce que leur participation est considérée comme plus lacunaire, etc. Je l'ai dit. Donc il y a aussi cette idée de perdre ce lien. Cela dit, si les devoirs sont faits à l'école, s'ils sont bien faits à l'école, s'ils renvoient à des notions acquises, à des travail corrigé, etc. Moi, je suis un petit peu sceptique sur les propositions telles qu'elles existent par rapport à la primaire. Peut-être qu'on peut imaginer d'autres formes de liens entre l'école et les parents à propos des devoirs. C'est-à-dire que, de toute façon, aujourd'hui, quand les enfants rentrent de l'étude, pour beaucoup de parents de mon enquête, en tout cas, il y a quand même un moment où on dit « qu'est-ce que tu as fait ? Montre-moi, ressors-moi les choses ». Il y a aussi cette inquiétude des familles qui mettent leurs enfants à l'étude, de voir se perdre un peu le lien autour des devoirs. Donc on peut imaginer qu'il puisse y avoir un temps où on parle des devoirs, mais qui ont été faits à l'école, hein, mais que ce temps-là ne soit pas un temps potentiellement de difficultés, de conflits, et de ça, parce que je ne l'ai pas souligné aussi, mais les devoirs et l'école sont une source de conflits, de tensions au sein des familles.
juste une
dernière alors. Ouais.
Non, c'était juste pour dire que pour résoudre ce problème justement de l'internalisation des devoirs, ce que j'avais commencé à mettre en place dans mon collège, c'est que j'avais proposé en fait aux parents de venir lors de l'aide aux devoirs et de faire les devoirs ensemble en fait, enfants, enseignants et parents. Ça permettait de faire le lien justement.
Oui, il y a beaucoup de dispositifs qui visent aujourd'hui à essayer de donner aux familles populaires les moyens qu'ont les autres familles, ben justement, de suivre. Oui, bien sûr, mais ces dispositifs, généralement, ils sont quand même beaucoup mis en place dans l'éducation prioritaire. Ça me semble intéressant, en même temps, si on... Je crois que c'est la question fondamentale... Qui sous-tend en fait ces débats pour ou contre les devoirs, moi c'est comme ça que je la vois, c'est de quelle responsabilité de quelle institution doit relever l'encadrement du travail personnel des élèves. Est-ce qu'on considère que les devoirs, le travail personnel, c'est un processus fondamental du processus d'apprentissage et on dit que ça relève d'abord et avant tout de la responsabilité de l'institution scolaire? Ou est-ce qu'on dit que ça relève de la responsabilité de la famille, de l'espace familial, etc. Je crois qu'il est important de rappeler, et c'est ce que fait Patrick Rayou dans le premier chapitre de son bouquin « Faire les devoirs », il est important de rappeler que le modèle qu'on connaît, celui de l'externalisation du travail personnel des élèves, est un modèle relativement récent. Le premier chapitre qui est écrit par Martine Kérubi rappelle que dans l'enseignement secondaire, pendant longtemps, pendant des siècles en fait, hein, parce que c'est une tradition qui remonte au modèle des humanités, les élèves ont travaillé à l'étude, encadrés, aidés, leur travail était vérifié par des répétiteurs. Hein, et Martine Kérubi montre bien, à l'appui des travaux de Pousset, Savoie, etc., que dans le modèle de l'école primaire publique républicaine, au départ, hein, il était évident que ce travail personnel devait être pris en charge par l'instituteur au sein de la classe qui était garant de ce travail fondamentalement. Donc je crois qu'il y a à s'interroger sur ça quand on développe aussi ces pratiques visant à davantage impliquer les familles populaires, notamment dans le suivi des devoirs.